Le journal de la rédaction vous est présenté par Mathieu Laurent. Bonsoir.
Bonsoir Julie Gacon et bonsoir à tous. Explosion et tir d'armes automatiques à Aden au Yémen. Les combattants séparatistes du sud ont pris plusieurs quartiers de la ville. Des négociations sont en cours. Omar Waman est sur place. Le principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, une fois de plus arrêté. Ses partisans ont défilé aujourd'hui pour dénoncer les élections présidentielles à venir qu'il qualifie de duperie. Précision de notre correspondant à Moscou, Claude Brouillot. Vous entendrez dans cette édition Bernard Pivot rendre hommage à Jean-Claude Lattès, qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Et puis ce 28 janvier, la journée mondiale de la protection des données, l'occasion d'aborder un chamboulement à venir dans toute l'Union européenne dans ce domaine. Explication en fin de journal d'Abdelak El Idrissi. Aden donc, explosion et tir d'armes automatiques quelques heures après un véritable coup de force des troupes séparatistes du Sud qui sont allées jusqu'à prendre une base militaire clé et plusieurs édifices officiels aux soldats fidèles au président yéménite Abu Mansour Hadi en exil en Arabie Saoudite. Les assaillants sont eux soutenus par les Émirats Arabes Unis, leur mouvement est très puissant et depuis l'année dernière, leurs relations sont tendues avec le gouvernement qui s'est d'ailleurs retranché à Aden après avoir été chassé en septembre 2014 de la capitale Sanaa, conquise par les houthistes soutenus par l'Iran. Le président yéménite ce soir appelle les siens au cessez-le-feu et ses alliés à l'aide. Aden, Omar Waman.
Les forces fidèles au président du Yémen, Abed Rabou Mansour Hadi, exilé en Arabie Saoudite, avaient pour ordre de barrer la route aux centaines de manifestants séparatistes lourdement armés, venus chasser le gouvernement après un ultimatum qui a expiré ce matin. Ce qui a conduit, dès le début de la journée, à des affrontements extrêmement violents. Ils ont duré plusieurs heures jusqu'à la prise de contrôle par les sécessionnistes du bâtiment où siège le gouvernement yéménite après avoir été chassé en septembre 2014 de la capitale Sanaa par les rebelles houthis. Les combats ont baissé d'intensité dans l'après-midi suite à l'ordre donné aux unités loyalistes de rentrer dans leurs casernes. Ce coup de force est l'œuvre du chef de ce mouvement séparatiste, Haïdarus al-Zubaydi, ancien gouverneur d'Aden, soutenu par les Émirats Arabes Unis, contre celui qui est devenu son ennemi, le président Hadi, allié de l'Arabie Saoudite. Paradoxe de la situation, les deux pays du Golfe participent activement dans la même coalition contre les rebelles houthis dans le nord du Yémen, mais s'affrontent par force interposée dans le sud du pays. Les deux camps se sont déjà battus par le passé pour le contrôle de l'aéroport d'Aden, mais cette crise est beaucoup plus grave. Elle oppose les partisans de l'unité du Yémen avec, pour capitale, Sanaa et les militants de la cause séparatiste majoritaire à Aden qui souhaitent revenir aux frontières de 1990 avant la fusion des deux Yémen. Des négociations ont commencé ce soir entre les parrains des deux camps afin d'éviter un embrasement général à Aden où l'aéroport a été fermé et la ville totalement paralysée.
Le dernier bilan en date, bilan des combats, est d'au moins 10 morts et 80 blessés. Omar Waman qui signe demain matin le choix de la rédaction. L'armée malienne, de nouveau prise pour cible, 4 soldats sont morts lors de l'attaque de leur base à Ménaka dans le nord-est du pays. Au Burkina Faso voisin, le gouvernement et les syndicats de l'éducation sont parvenus la nuit dernière à un accord pour sauver l'année scolaire. Issue satisfaisante pour les enseignants après 4 mois de grève perlée, ils ont obtenu entre autres une revalorisation de leurs fonctions. L'offensive turque dans le nord syrien se poursuit et le président Recep Tayyip Erdogan ne cesse de déclarer qu'elle ne sera terminée qu'une fois, je cite, la frontière, toute la frontière, purgée de ses terroristes. Fin de citation. Cette offensive a conduit les représentants des formations politiques kurdes à ne pas participer après-demain à la réunion de paix de Sochi, initiée par Téhéran et Moscou. L'opposition syrienne, elle non plus, ne se rendra pas à Sochi. Les implications russes, hors les murs, sont autant d'atouts que ne manque pas d'abattre Vladimir Poutine quand il travaille au culte de sa personnalité, appliqué à convoquer les heures glorieuses de la Grande Russie. Prodomo, c'est une autre équation. Il s'agit d'anémier toute opposition. Ainsi d'Alexei Navalny, privé d'élection présidentielle, à la suite d'une condamnation fantoche, le blogueur et leader du Fonds de lutte contre la corruption qui a été de nouveau arrêté ce dimanche, alors qu'il avait appelé les siens à manifester dans 100 villes du pays. Que représente ce mouvement d'opposition en Russie ? Élément de réponse avec notre correspondant à Moscou, Claude Brouillot.
Malgré le froid et les interdictions, malgré l'omniprésence des forces de l'ordre, malgré la pression policière en amont des manifestations, la détermination des sympathisants d'Alexeï Navalny n'a pas faibli. Jeunes pour la plupart, ils dénoncent toujours la corruption du pouvoir, que ce soit dans les régions ou au niveau fédéral. Mais aujourd'hui, à Moscou et dans plus de 100 villes, en plus et pour la première fois en pleine campagne électorale, ces jeunes demandent ouvertement le départ de Vladimir Poutine. Comme en 2017, Alexeï Navalny a été arrêté pour avoir organisé à Moscou sa manifestation en un lieu interdit, précisément sur l'avenue Tverskaya qui débouche sur le Kremlin, un peu comme une provocation à l'égard de Vladimir Poutine. Cette nouvelle interpellation risque de valoir au leader du mouvement anticorruption une nouvelle peine de prison, peut-être plus importante que la dernière qui était de 30 jours, en raison cette fois de la récidive multiple assumée par Alexeï Navalny, qui a demandé d'ailleurs au moment de son arrestation à tous ses sympathisants de poursuivre les actions entreprises aujourd'hui.
Un homme de 30 ans est mort, roué de coups en pleine rue, hier soir à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, roué de coups par 30 à 40 individus, selon des témoins. La victime se trouvait avec deux amis devant une épicerie. Quand ils ont été pris à partie, ses deux amis ont fui. La victime avait eu une altercation quelques minutes plus tôt avec le conducteur d'un scooter. La ministre de la Justice appelle les surveillants de prison à reprendre le travail dans la foulée d'un accord trouvé avant-hier avec le syndicat UFAP-UNSA, majoritaire au sein de la profession, et promet des sanctions dès demain à ceux qui décideront de poursuivre la grève. Force ouvrière et la CGT ont consulté leur base ces deux derniers jours. Nicole Belloubet qui s'exprime également sur la position du gouvernement s'agissant de ressortissants français possiblement condamnés à mort pour djihadisme en Turquie, en Irak ou encore en Syrie.
La situation est différente selon les États dont vous parlez. Avec la Turquie, nous avons des accords qui sont clairs et qui nous permettent de faire revenir les personnes. Avec l'Irak, c'est un État qui est reconnu comme tel. Et donc, bien entendu, les Français qui sont là-bas peuvent être jugés par l'État irakien. La Syrie, c'est un peu plus compliqué puisque l'État n'est pas reconnu en tant que tel. Et bien entendu, c'est un traitement là au cas par cas qui doit être effectué. Je redis ici mon attachement aux règles du procès équitable. Bien entendu, s'il y avait une question de peine de mort, l'État français interviendrait en négociant avec l'État en question. Et encore une fois, ce serait un traitement au cas par cas.
Bonsoir Eva Joly.
Bonsoir.
Merci à vous d'accepter d'intervenir dans cette édition. Avec Julie Gacon, vous vous attarderez sur la prison, les questionnements qui fusent autour des conditions de détenus condamnés en France pour terrorisme djihadiste. Mais que dire de ceux qui peuvent être condamnés dans les États cités précédemment?
Alors pour moi, la Constitution française protège les citoyens français et il y a un devoir pour l'État de demander leur rapatriement et c'est un devoir de leur offrir un procès équitable. Je rappelle que tous les Français qui sont entre les mains des Kurdes, par exemple, ne sont pas nécessairement des combattants de Daesh. Il y en a aussi qui sont parti pour soutenir les forces démocratiques. Donc, une condamnation par l'État turc ou syrien, pour moi, laisse présager le pire et il y a un risque de non-individualisation de ce procès. Et surtout, les Kurdes qui sont ne sont pas un État, n'ont pas d'institutions qui peuvent rendre la justice en réalité. Et je trouve qu'il y a une contradiction frappante entre le fait de considérer que les Kurdes sont une organisation terroriste PKK et de leur laisser nos citoyens pour jugement. Donc pour moi, ces Français doivent être répatriés, ils doivent être jugés pour ce qu'ils ont fait ici en France.
La ministre des Armées, Mme Belloubet, ne se distance pas en quelque sorte de ce qu'a dit Mme Parly, dit pas d'état d'âme. Est-ce que c'est aussi épouser une pensée plus collective, plus diffuse?
Je pense que c'est une pensée diffuse dans le public. Ils sont du fait des sondages que nous ne connaissons pas. Et voir que beaucoup de Français pensent que c'est bien fait ou que c'est ils sont ce qu'ils cherchent. Mais justement, la dignité et la grandeur d'un pays, c'est de ne pas rester à ce ressenti. Et la justice n'est pas simplement vengeance. La justice doit chercher à prononcer des peines individualisée. Vous avez là des jeunes filles qui sont parties alors qu'elles avaient 16 ans. Quelle est leur responsabilité? Il convient de l'évaluer. Mmh. Et en les laissant entre les mains des Turcs, on peut vraiment craindre pour leur vie. Il y a aussi beaucoup d'enfants. Est-ce que nous souhaitons réellement qu'ils soient laissés là-bas entre des forces obscures?
Bien, ben je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions et on vous retrouve évidemment dans l'émission de Julie Gacon dans un instant. La justice, toujours française, enquête depuis plusieurs mois sur une éventuelle escroquerie liée à la décision du tribunal de commerce ayant permis à Bernard Tapie d'éviter la saisie de ses biens pour rembourser l'État. Dans l'affaire d'un arbitrage controversé, des questions, rappelons-le, du remboursement d'un montant de 404 millions d'euros. Une information judiciaire contre X a bien été ouverte le 30 août 2017, confirmant ainsi une information du site Mediapart. Le ministère public s'interroge sur le fait que le tribunal de commerce soit contenté d'adopter, sans procéder au moindre examen critique, un rapport commandité par Bernard Tapie. Il est 18h11, vous écoutez France Culture. Repérer avec aisance les talents naissants et une authentique érudition de l'Antiquité à nos jours. Jean-Claude Lattès est mort à l'âge de 76 ans. Il aurait été journaliste à combat, puis éditeur et enfin écrivain. L'homme de lettres Bernard Pivot insiste sur ce flair que l'on prête à nos meilleurs confrères.
Il était journaliste, donc il avait ce côté de flairer l'actualité, de se dire qu'est-ce qui est dans le vent, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui va faire problème, etc. Donc il avait ce... Et puis, bon, il savait lire des manuscrits, qui n'est pas donné à tout le monde. Et il savait donc repérer des talents naissants, comme celui de Denuvière, par exemple. C'était un érudit de la littérature gréco-latine. Il connaissait admirablement tous les auteurs grecs et latins, en particulier Philon, le philosophe juif d'Alexandrie. Il était vraiment incollable sur toute cette littérature gréco-latine.
Des propos recueillis par Olivia Ferrandi. Commémorer, c'est rendre hommage. Et Maurras, auteur antisémite d'extrême droite, n'a pas sa place dans les commémorations nationales 2018. La charge du préfet à la tête de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT a conduit la ministre de la Culture à retirer Charles Maurras du livre des commémorations. Dans le texte officiel, le pilier de l'Action française est présenté comme une figure emblématique et controversée qui mêle à travers son itinéraire les lettres et la politique. On peut encore lire que cet écrivain, reconnu tant en France qu'à l'étranger, fut aussi le théoricien politique du nationalisme intégral et un polémiste redouté. Registre préfacé par Françoise Nyssen. Ce soir, la ministre dit son rejet total des thèses de Charles Maurras et prend la décision que l'on sait pour ne pas diviser la société française. Le 25 mai prochain entrera en vigueur un règlement européen très important qui doit permettre de mettre fin à de très nombreuses mauvaises pratiques. Et aujourd'hui, c'est une journée mondiale de sensibilisation à de lourds enjeux, parmi lesquels le renforcement des droits des personnes qui va de pair avec de nouvelles obligations pour ceux qui traitent nos données personnelles. Les entreprises, organismes publics et associations voient leurs responsabilités réaffirmées et même engagées concernant la nécessaire protection des données qu'ils collectent. Abdelhak El Idrissi.
Le bouleversement à venir en matière de données personnelles réside dans l'application du principe d'approche par les risques. Concrètement, toutes les entreprises et organisations qui collectent et traitent des données personnelles auront l'obligation de répondre à plusieurs questions. Quelle est la sensibilité des données collectées? Quel serait l'impact sur les personnes concernées en cas de modification ou de disparition de leurs données? Et donc, quelles mesures de prévention, de protection et de détection doivent être prises? Tous les organismes publics et de nombreuses entreprises vont également devoir désigner un délégué à la protection des données pour piloter la conformité en la matière, car ces dernières années, les entreprises semblent avoir privilégié la monétisation de nos données en oubliant leurs obligations, comme l'explique Gilles Garnier, responsable protection des données au cabinet Harmony Technologie.
En fait, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'entreprises profitent de l'effet règlement européen pour se mettre en conformité avec la loi, mais la loi, elle existait déjà. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui n'étaient déjà pas tout à fait en règle. Des facteurs qui permettent d'accélérer un peu les choses, c'est les sanctions financières. Et certaines entreprises qui finalement acceptaient le risque de sanctions financières assez faibles, aujourd'hui ne peuvent pas passer à côté.
Des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial, des montants qui doivent faire comprendre aux entreprises l'importance de respecter la loi. La CNIL a déjà assuré qu'elle n'appliquerait pas les sanctions dès le 25 mai prochain. Dans un premier temps, la Commission fera un travail d'accompagnement d'accompagnement et de conseil auprès des structures concernées par le règlement européen, mais les entreprises vont devoir montrer qu'elles ont intégré leurs nouvelles obligations.
La météo de demain lundi à très gros traits, très grands traits, toujours bien gris, sauf sur l'extrême sud. Météo France maintient cet après-midi 11 départements en vigilance orange aux inondations. Le Loiret n'est plus concerné. Ainsi se referme cette édition préparée avec Caroline Beneteau.